الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، سورة الإسلام Je vous salue par la formule de salutation de l'Islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde infinie et ses bénédictions soient sur vous. En ce mois béni de Ramadan, nous nous retrouvons donc autour de la parole de Dieu qui a été révélée dans ce mois béni, autour d'une des sourates les plus exaltantes du Coran que nous avons débuté au cours de notre séance dernière et que nous allons donc, par la grâce de Dieu, poursuivre aujourd'hui à partir du verset numéro 6. Il s'agit de sourate Ibrahim alayhi salam. A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Donc nous venons de lire ces quatre versets là دي فرسي نمرو 6 وفرسي نمرو 9 بسورة إبراهيم عليه السلام. Et vous vous rappelez que nous avons vu la fois dernière que cette sourate a été révélée à la Mecque, c'est-à-dire pendant la période mécoise de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de laquelle le Coran, ou plus précisément Dieu le Très-Haut, puisque c'est sa parole incréée, a mis un accent particulier sur la profession de foi musulmane, parce que à l'époque-là, le Coran s'adressait à des gens qui n'avaient pas encore cru en Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle, pendant les 13 années de la mission du prophète alayhi salatu wassalam, la révélation mécoise a mis un accent particulier sur l'invitation des Quraishites de la Mecque à découvrir Dieu à travers ses noms et attributs, à travers l'invisible, notamment la résurrection, parce que ces gens-là ne croyaient pas qu'après la mort, il est possible qu'un être humain puisse être ressuscité des morts. Ces gens-là n'avaient pas compris qu'ils étaient venus d'un autre monde, d'une autre échelle, où ils existaient dans le monde des atomes, pour venir donc à cette échelle-là, où ils vivent en tant qu'êtres humains, formés d'un corps et d'un esprit, et que forcément, après la mort, c'est même Dieu qui les a fait venir du monde des atomes pourra les faire traverser de nouveau le monde des atomes pour les ressusciter des morts et pour les ramener à lui, afin que chacun puisse rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait et afin que chacun puisse être rétribué selon ses actes, exactement comme le Coran nous le dit, en particulier dans la révélation mécoise. Alors nous avons vu que Dieu, dans sa sagesse infinie, à travers les âges, a toujours envoyé des messagers, des prophètes aux différentes communautés pour leur rappeler l'engagement qu'ils ont pris dans le monde des atomes toujours. Comme cela nous a été conté dans Sourate al-Baqara, dans Sourate al-A'raf plutôt, n'est-ce pas? Ils ont donc, dans le monde des atomes, pris un engagement à Dieu de l'adorer et de ne lui désigner aucun associé. Les prophètes devaient donc venir par intermittence pour rappeler aux hommes cet engagement qu'ils ont pris à Dieu. Alors, nous avons vu donc que Dieu envoyait ses messagers avec la langue, le langage que ces communautés-là comprenaient, afin que ces communautés n'aient pas d'argument devant Dieu, afin que ces communautés ne disent pas le jour des comptes à Dieu, nous n'avons pas reçu de message, ou bien nous avons reçu des messagers, mais nous n'avons pas compris le langage de ces messagers. Donc, afin qu'il n'y ait pas d'argument pour ces gens-là vis-à-vis de Dieu. Alors, parmi ces prophètes-là et ces messagers que Dieu a envoyés aux différentes communautés, Dieu nous compte ici l'histoire d'un grand prophète, le prophète Moussa ibn Imran alayhi salam, que Dieu a envoyé chez Pharaon et son peuple. Et c'est à ce propos que Dieu nous dit ici, au début du verset numéro 6, « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. » C'est ce que Dieu dit donc à propos de Moussa. Moussa a été envoyé par Dieu chez Pharaon, mais d'abord chez son peuple, le peuple d'Israël. L'histoire de la mission du prophète Moussa est une histoire très exaltante. Vous connaissez dans quelles conditions le prophète Moussa est né. D'abord, dans quel milieu? Le milieu de Bani Israël, des enfants d'Israël, qui étaient en Égypte, qui vivaient sous l'esclavage, dans la servitude, sous Pharaon et son peuple. Mais comment ce peuple était arrivé d'abord en Égypte, et comment ils ont été transformés en esclaves par Pharaon et son peuple. Pour cela, il faudra peut-être revenir en arrière, sourate Yusuf alayhi salam. Vous connaissez également cette autre histoire qui est la plus exaltante, de loin la plus exaltante du Coran. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Lorsqu'il a dit, en nous contant l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Ce que tu as dit au prophète alayhi salatu wa salam, nous te contons ici l'histoire la plus exaltante qui puisse exister, l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam et de ses frères. Certainement que vous avez dû apprendre cette histoire là Le prophète Yaqub alayhi salam, qui est le fils du prophète Ishaq alayhi salam, qui lui aussi est le fils du prophète Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme. Le prophète Yaqub alayhi salam était donc un prophète. Il avait eu 12 enfants, parmi lesquels 10 enfants d'une même mère et 2 autres enfants d'une mère différente. Ces 2 autres enfants d'une mère différente était le prophète Yusuf lui-même alayhi salam, qui était l'aîné, et son jeune frère qui était le Benjamin de tous ses 12 enfants. On l'appelait donc Benjamin, n'est-ce pas? Donc Bunyamin selon le terme coranique, le terme arabe. Le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, dès son enfance, avait reçu les signes de la prophétie, parce que il recevait déjà, il avait déjà commencé à voir des rêves clairs, parce que la prophétie à ses débuts commence par un rêve clair. Lorsque le prophète à ses débuts rêve, eh bien le lendemain ça devient réalité. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le rêve est la 70e partie de la prophétie. Même nous tous, parfois nous faisons des rêves, nous voyons des rêves, et puis quelques jours après, ou quelques mois après, ou même quelques années après, nous voyons ce rêve se réaliser. Donc Dieu nous a inspirés à travers ce rêve, parce qu'il y a deux sortes de rêves en islam. Il y a le rêve qui vient de l'inspiration du démon, et le rêve qui vient de l'inspiration de Dieu, pour vous donner une information sur la science cachée de Dieu. Alors, donc dès son enfance, le prophète Yusuf alayhi salam avait commencé à voir des rêves. Il avait vu notamment le soleil, la lune et 12 étoiles qui étaient venues se prosterner pour lui. Alors, il est venu, il a conté l'histoire, il a conté son rêve à son père qui était un prophète qui avait déjà tout compris. Alors, pour éviter donc la jalousie de ses autres frères, son père lui avait interdit de raconter ce rêve à ses autres frères. Mais malgré cela, puisque le père avait vu que son fils avait déjà commencé à voir les signes de la prophétie, eh bien il a commencé déjà à accorder plus d'attention à cet enfant qui, comme il le savait, aura un avenir tout à fait particulier. Alors, malgré cela, malgré ses craintes, ses frères, sous l'emprise du démon, ont trouvé une astuce, n'est-ce pas, pour se débarrasser de ce frère-là, de Yusuf. Ils l'ont jeté dans un puits, mais Dieu l'a sauvé. C'était une caravane qui avait passé, qui cherchait de l'eau dans ce puits, qui avait pu donc le sortir du puits, et l'amener donc en Égypte. Ils l'ont amené en Égypte, en esclave, et ils l'ont vendu donc. L'enfant, le jeune enfant, a passé de main en main, et finalement, il était devenu l'esclave d'une personnalité qui était proche du roi d'Égypte, qu'on appelle dans le Coran l'Aziz. Alors, l'histoire du prophète Yusuf a continué. Vous connaissez la suite, pour ne pas rentrer dans les détails. il avait été donc provoqué par la femme de cette personnalité qui s'était éprise de lui. Dieu l'a sauvé, n'est-ce pas, de la turpitude. Et la femme, qui était donc la femme d'une grande personnalité, pour vous montrer que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu cette injustice, il y a toujours eu des gens qui ont préféré, n'est-ce pas, commettre l'injustice vis-à-vis des faibles. La femme a dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais te faire emprisonner. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé en prison. Il a d'ailleurs prié Dieu en lui disant, « Oh mon Seigneur, la prison est meilleure pour moi que la turpitude. Et je te demande donc de me mettre à l'abri de cette turpitude. » Il avait été jeté dans la prison. En prison, il a trouvé deux coprisonniers qui étaient des serviteurs du roi d'Égypte lui-même. Un qui était son serveur de boissons, d'alcool, et un autre qui lui servait donc les repas. Alors, ces deux ont vu un rêve alors qu'ils étaient en prison. Et certainement que dans la prison, ils ont dû remarquer Youssouf alayhi salam. Ils avaient trouvé donc qu'il avait un comportement tout à fait particulier. Il était sage, il était inspiré de Dieu. Ils l'ont approché, ils ont pu le comprendre et ils lui ont donc conté le rêve. Et immédiatement, donc, il a donné le sens des rêves, il a donc expliqué ces rêves-là. Et plus tard, donc, les rêves s'étaient réalisés exactement comme il les a expliqués. Un d'eux avait vu que des oiseaux mangeaient quelque chose sur son crâne, et un autre avait vu qu'il était libéré et qu'il avait repris son travail. Celui qui avait vu que les oiseaux mangeaient quelque chose sur son crâne avait été mis à mort, exécuté, certainement que on avait découvert qu'il avait comploté pour empoisonner le roi, son maître, tandis que l'autre avait été innocenté, donc libéré, et il avait repris son travail. Puisqu'il savait qu'un d'eux allait être sauvé, il lui avait recommandé d'informer le roi que lui, il était là, afin que le roi puisse donc le libérer. Mais puisque Dieu est sage, Dieu sait ce qui est caché et ce qui est visible. Dieu a préféré qu'il reste plus longtemps en prison. Le serviteur qui avait été informé, qui avait été sauvé de la guillotine, avait oublié le pauvre Youssouf en prison. Et il resta plusieurs autres années. Jusqu'à ce que finalement, le roi lui-même avait vu un rêve extrêmement étrange. Il avait vu, n'est-ce pas, cette vache maigre qui était en train de manger ou de consommer cette autre vache grasse. Et cet épi maigre qui était en train également d'avaler cette grosse épi. Alors c'était un rêve tout à fait étrange. Le roi avait eu peut-être peur. Il avait convoqué donc ses collaborateurs, ses conseillers, etc. Et il avait demandé de lui trouver la signification de ce rêve. Les gens avaient dit non, ça c'est un cauchemar, ce n'est rien, etc. Il n'était pas convaincu. Et c'est en ce moment que son domestique qui avait été sauvé s'était rappelé de Youssouf. Il a dit au roi, voilà, j'ai trouvé la solution, envoyez-moi en prison. Je vais aller voir un tel, il va vous donner la réponse. Et dès qu'il était venu, il a conté l'histoire à Youssouf alayhi salam, et immédiatement ce dernier lui avait donné la signification exacte du rêve en lui disant que l'Égypte connaîtra cette année de sécheresse, cette année d'abondance d'abord, et après cette année d'abondance, il y aura cette année de sécheresse, de disette, et il faudrait que les gens prennent des dispositions pour économiser pendant les 7 années d'abondance afin de pouvoir dépasser les 7 années de disette, de sécheresse qui viendront, qui suivront. Alors donc il est venu, il a dit la signification au roi,
Et le roi a renvoyé de nouveau les gens en prison pour dire d'aller l'amener. Quand les gens étaient venus, Youssouf a refusé de sortir. Il a dit non, il faudrait d'abord qu'on éclaircisse les choses. Que l'on demande aux femmes, précisément à la femme de l'intendant, du roi, il avait accusé, n'est-ce pas, de fornication. Le roi a fait venir la femme et puis les autres femmes qui étaient complices, les autres femmes de la ville. Le roi leur avait demandé de dire la vérité et les femmes ont témoigné en disant non, ce n'était pas vrai, il était innocent. La femme de l'intendant elle-même a dit Al-ana hashas al-haq, ana rawadtuhu an-nafsi. Donc elle a elle-même reconnu. Elle a dit que la vérité s'est maintenant cristallisée. C'est moi qui l'avais provoqué. Il était innocent. Alors Youssouf de déclarer ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْكُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. C'était donc la conclusion qu'il avait tirée. Il a dit qu'il avait demandé, il avait exigé qu'on proclame son innocence afin que son maître qu'il avait bien traité, parce que lorsque l'intendant de l'Égypte l'avait pris, l'avait acheté, il l'avait amené à sa femme et avait dit « Akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ». Il avait dit à sa femme « Prends soin de cet enfant ». Il se pourra qu'il nous soit utile ou bien que nous fassions de lui, que nous l'adoptions comme notre enfant, certainement qu'il n'avait pas eu d'enfant. Alors, il avait dit donc dans sa conclusion, il avait exigé qu'on proclame son innocence afin que cet intendant qu'il avait bien traité comprenne qu'il ne l'avait pas du tout trahi et que Dieu ne guide pas, n'est-ce pas, l'action des gens qui trahissent. Et il a dit Wama ubarri unapsi, ce n'est pas pour me déclarer infaillible. Inna nafsa la ammaratun bisu, et il a proclamé, il a annoncé une vérité éternelle qui touche l'être humain, qui touche à l'être humain, en disant Inna nafsa la ammaratun bisu. L'âme de l'être humain est un réceptacle du mal, est un réceptacle du démon. Illa man rahima rabbi. Sauf pour les gens qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu, ce sont ces gens-là seulement qui sont à l'abri du mal de leurs âmes. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait dire Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Cela fait partie des prières du prophète alayhi salatu wasalam. Il dit Seigneur, je te demande refuge, ou bien je me réfugie auprès de toi contre le mal de mon âme. Parce que par définition, l'âme est le réceptacle du mal, l'âme est le réceptacle du démon. Le démon utilise l'âme parce que c'est avec l'âme, c'est au niveau de l'âme et non l'esprit que se situent les besoins, tout ce dont nous avons besoin, la richesse, n'est-ce pas, la royauté, la bonne santé, les honneurs, etc. Tout cela vient de l'âme qui est le réceptacle du démon. Alors c'est ce qu'il avait dit et finalement donc le roi l'avait accepté. Et il l'avait désigné comme son intendant, comme son ministre de l'agriculture, ou bien selon d'autres versions, comme son ministre des finances. Et le prophète Youssouf, donc, a eu ainsi l'occasion de gérer l'économie de l'Égypte, n'est-ce pas, de pouvoir économiser pendant les 7 années d'abondance. Et il a pu ainsi, grâce à son sens de l'organisation, n'est-ce pas, et de la mesure, il a pu sauver l'Égypte de la disette que l'Égypte a connue pendant les 7 années. Alors c'était au cours de ces années difficiles que les frères du prophète Youssouf alayhi salam avaient entrepris, donc, puisqu'ils avaient été victimes de cette disette, de la sécheresse, ils avaient appris qu'en Égypte, il y a donc tout ce dont ils ont besoin, puisque le prophète Youssouf a pu organiser le pays dans ce sens, et ils étaient venus donc acheter des vivres en Égypte. Et puisqu'ils étaient venus en Égypte, le premier responsable, n'est-ce pas, de la distribution, de la vente, de la commercialisation, de la rationalisation de ces céréales, de ces vivres-là, était le prophète Youssouf. Donc il a été leur premier interlocuteur. Ils les avaient reconnus dès qu'ils les avaient vus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors l'histoire a continué. Le prophète Youssouf a pris donc des dispositions pour que d'abord il les ramène son frère, ensuite il leur a laissé dans leur dans leur anse ou bien dans leur sac ou leurs emballages, il a pris soin de leur remettre à leur insu dans leur emballage le prix de ces vivres qu'ils avaient achetés. Alors donc ils étaient revenus, ils ont pu convaincre leur père qui était un prophète, peut-être qu'il était inspiré par Dieu. Il a compris quand même qu'il fallait laisser l'enfant partir, le Benjamin, qui était venu. Dès qu'il était venu donc, le prophète Youssouf l'a reçu en privé. Il lui a dit, ne t'en fais pas, je suis ton frère, un tel. Bon, alors donc, ça a continué ainsi. Et finalement, c'était au dernier moment qu'il s'était dévoilé. Et il a demandé donc de faire venir toute sa famille. C'est ainsi que la famille du prophète Yaqub alayhi salam s'était retrouvé en Égypte. Yaqub, avec sa famille, dont ses 12 enfants, parmi lesquels il y avait le prophète Youssouf alayhi salam et son frère Benjamin. Alors, cette famille du prophète Yaqub, et c'est Yaqub lui-même qu'on appelle Israël, ce sont ses descendants qu'on appelle les Bani Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël ou bien les Israélites. Ils sont restés en Égypte, ils se sont multipliés, ils étaient devenus des centaines de milliers de personnes, après plusieurs siècles évidemment. Et entre temps, l'Égypte a changé de régime politique, et ça, le Coran est le seul livre sacré que nous avons aujourd'hui qui a enregistré ce changement. Si vous regardez la Bible, au temps de Pharaon, de Moïse, on dit, au temps de Joseph, le roi d'Égypte, dans la Bible, on l'appelle le pharaon, alors qu'à l'époque, ce n'était pas un pharaon, ce n'était pas la dynastie des pharaons qui était au pouvoir. C'était un roi qui était au pouvoir. La dynastie des pharaons était venue plus tard. N'est-ce pas? Le Coran a enregistré justement ce détail, cette différence. Au temps du prophète Youssouf, il y avait un roi. Le Coran parlait de Malik. Tandis qu'au temps du prophète Moussa alayhi salam, on ne parle pas de Malik, mais on parlait de Pharaon. Parce que le titre de Pharaon est un titre impérial. Ce n'était pas en réalité le nom de la personne, mais son titre. Comme si on dit par exemple empereur, ou bien roi, ou négus, etc. Alors, pendant donc l'époque de ces pharaons, entre-temps, ils ont asservi les descendants du prophète Yaqub alayhi salam, c'est-à-dire les Bani Israël, ils les ont asservis et ils étaient devenus des esclaves de la population égyptienne pharaonique. Alors c'est en ce moment que Dieu a décidé d'envoyer parmi eux enfin un prophète, depuis le prophète Youssouf alayhi salam. Il y avait eu certains prophètes de moindre importance, mais le prophète Moussa est considéré par le Coran comme un prophète de grande détermination. Parmi les prophètes de grande détermination qu'on appelle dans le Coran « Ulul Azm », ils sont au nombre de 5, comme vous le savez, le prophète Nour, le prophète Ibrahim, le prophète Moussa, le prophète Isa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus important de tout cela. Alors donc, Dieu a envoyé Moussa à son peuple pour les délivrer de la servitude. Et pour cela, il fallait que le prophète Moussa aille directement chez Pharaon qui les a asservis pour les libérer. Effectivement, il est parti. Bon, l'histoire est assez longue. Le prophète Moussa est né dans des conditions aussi tout à fait particulières, parce que Pharaon avait été informé par ses devins que parmi les Bani Israël, un enfant naîtra qui sera la cause de sa mort, c'est-à-dire qui va l'assassiner, ou bien qui sera la cause de sa mort en tout cas. Alors Pharaon, en dictateur, en orgueilleux, il avait immédiatement donné ordre à sa police et à sa gendarmerie de recenser tous les enfants qui naissaient parmi les enfants d'Israël, parmi les Bani Israël. On a commencé le recensement, et chaque fois qu'un garçon naissait, il donnait ordre de le mettre immédiatement à mort. Et les filles qui naissaient étaient transformées, n'est-ce pas, en domestiques, en esclaves, etc. La situation avait continué pendant plusieurs années, et finalement, les gens étaient venus demander au pharaon d'alléger cette disposition, parce qu'il a dit sinon, ce peuple-là finira d'exister. S'il n'y a plus d'hommes, ça veut dire qu'il n'y aura plus, n'est-ce pas, de naissance. Il n'y aura plus de multiplication, donc la race-là va s'épuiser. Alors, il a accepté, il a dit, bon, d'accord, il faudra sauter une année. Une année, les garçons qui naissent, vous les épargnez. La deuxième année, ceux qui naissent, vous les mettez à mort. Alors, c'est ainsi qu'il avait commencé. Donc, ils ont repris donc cette méthode. Cette année, on tuait les enfants, les garçons. L'année suivante, on les épargnait. La troisième année, on les égorgeait, ainsi de suite. Et il s'est trouvé que le grand frère, que Moussa a eu un grand frère, qui est né avant lui, qui était le prophète Haroun alayhi salam, qui est né pendant l'année où on ne mettait pas à mort les enfants. Donc, il a été épargné. Lui, il n'y a pas de problème. Pour vous montrer la sagesse de Dieu, le prophète Moussa, qui devait être la cause de la mort de Pharaon, était né pendant une année où on devait tuer les enfants. Dieu a voulu montrer ici sa puissance et que son décret ne change pas. Ça ne peut changer que par sa permission. Donc, Moussa, voilà que Moussa naît au cours d'une année où on devait tuer tous les enfants, les garçons. Alors, pour vous montrer encore la puissance de Dieu, cet enfant qui est né au cours d'une année interdite s'est retrouvé dans le palais de Pharaon lui-même. C'est Pharaon qui l'a logé, qui l'a nourri jusqu'à ce qu'il a grandi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Comment ça s'est passé? Lorsque l'enfant naquit, évidemment, sa mère s'était inquiétée, elle s'était mise à se lamenter. Pour elle, il n'y a pas de problème, cet enfant-là va mourir. Parce que, justement, les espions, les yeux et les oreilles de Pharaon étaient partout. Dès qu'un enfant naissait, tout de suite, surtout les certaines vieilles femmes qui étaient là à l'affût, c'est elles qui vont donc donner l'information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'enfant naquit, immédiatement Dieu a parlé à la mère de Moussa, alayhi salam, par l'inspiration. Dieu lui a dit, ne te fais pas de soucis, cet enfant-là, je vais le sauver et je ferai de lui un prophète. « Wa la tahzani inna radduhu ilayk » وجائله من المرسلين الله اكبر لا اله الا الله. Alors Dieu a donné ordre à la mère de Moussa de mettre l'enfant dans une corbeille et de l'envoyer sur le Nil. Il se trouve que leur maison était en amont du palais du roi, du palais de Pharaon, qui était au bord du fleuve du Nil. Alors, Elle avait mis l'enfant, j'ai vu le film, on a fait un film comme ça là-dessus. La mère avait mis donc l'enfant dans la corbeille, elle était venue au bord du fleuve, elle a déposé la corbeille sur l'eau. Chaque fois qu'elle veut lâcher la corbeille, il y a l'amour maternel qui l'agite, elle reprend, elle se ressaisit de la corbeille. Et elle se met à pleurer. Ensuite, elle se rappelle de l'inspiration, de l'ordre que Dieu lui a donné. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَدُّهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Elle se rappelle de la phrase et elle lit, elle répète elle-même la phrase. Ensuite, elle veut lâcher, ça reprend ainsi de suite la troisième fois. Elle s'est confiée à Dieu, elle a lâché la corbeille. Et la corbeille a pris le chemin du courant. Immédiatement, elle a dit à sa fille, qui était la grande sœur du prophète Moussa, la fille s'appelait Mariam, elle lui a dit de suivre la corbeille et d'aller voir ce qui se passe. Donc la fille de loin suivait la corbeille. La corbeille a longé donc la bordure du fleuve jusqu'à ce que la corbeille est venue s'accoster à l'endroit même où les femmes du palais se baignaient. Et on a vu donc la corbeille s'approcher jusqu'à ce que la corbeille était venue tout près de ces femmes-là. C'était une femme qui l'avait observée, elle a vu ça, son attention a été attirée et puis elle est descendue dans l'eau. Elle vient, elle regarde, elle trouve qu'il y avait un enfant qui était là-dedans. Elle s'est écriée, c'est un enfant. Et dès qu'elle a dit que c'était un enfant, il y avait la femme de Pharaon parmi ces femmes-là, Asiya, qui a éloigné toutes les femmes. Elle leur a dit de monter. Parce qu'elle a compris peut-être que l'information pourrait aller chez Pharaon d'une autre manière et ça risque d'avoir un mauvais effet. Elle préfère elle-même informer son mari. Alors elle s'est approchée de l'enfant et dès qu'elle a vu l'enfant, l'amour de cet enfant-là a rempli son cœur. Allahu Akbar. Alors elle a pris l'enfant. C'était un très beau garçon. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Donc, c'était l'occasion d'adopter cet enfant. Elle a pris l'enfant et immédiatement, elle est rentrée au palais. Elle est venue chez le mari. Elle a dit, voilà, nous avons trouvé un enfant. Elle a prononcé la même phrase que l'intendant avait prononcé à l'intention de son épouse lorsque le prophète Youssouf était venu. Akrimi matwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. La femme a dit à son mari, cet enfant nous allons l'adopter, peut-être qu'il nous sera utile ou bien nous l'adopterions comme un enfant. Alors, Pharaon a accepté. Maintenant, il est resté un problème. Comment nourrir cet enfant? On est parti chercher toutes les nourrices du pays. Chaque fois qu'on amenait une nourrice qui lui donnait le sein, l'enfant refusait. Sa grande sœur Mariam était encore toujours aux alentours. Quand elle a vu l'histoire, la femme du pharaon était vraiment inquiétée. L'enfant risque de mourir de faim. La fille s'était approchée pour lui dire, est-ce que je peux te conduire dans une famille où on va s'occuper de cet enfant et l'enfant n'aura aucun problème. Je pourrais amener une nourrice que l'enfant pourra accepter. C'est ainsi que Dieu a rempli sa promesse. Il n'aura d'où il est ici, وَجَاءِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous allons le retourner à toi. C'est ce que Dieu a inspiré à la mère. Nous le retournerons à toi et nous en ferons un prophète. C'est ainsi que l'enfant est revenu. Sa maman, on est parti prendre la maman, qui est devenue donc la nourrice, qui est payée, n'est-ce pas, et qui allaitait en même temps son enfant. C'est ainsi que l'enfant a grandi dans le palais, dans toutes les conditions. Il était choyé, et il était un enfant gâté. Sa croissance a été parfaite, il était devenu un homme d'une très grande stature et finalement il y a eu des problèmes, etc. Il est sorti de la ville, tout ça. C'est une longue histoire, il ne faut pas rentrer dans les détails. Il a quitté la ville parce qu'on le cherchait finalement, on voulait le tuer. Il a quitté la ville, il est parti quelque part où il a trouvé une famille très pieuse, un monsieur qui est très pieux, qui avait deux filles très très pieuses, n'est-ce pas? Il n'avait que des filles et ils avaient un troupeau de chèvres. Le monsieur qui était pieux a dit au prophète Moussa, je vais te faire marier une de mes filles à condition que je t'engage comme berger pendant 8 ans. Si tu complètes à 10, c'est une bonté de ta part. Et ensuite, en tout cas, je te ferai marier. C'est ainsi qu'il a rempli son contrat. Au bout du contrat, donc, on lui a donné la fille en mariage. Le mariage a été célébré. Il était resté jusqu'à ce qu'il a eu sa première naissance, son premier né. Et c'est en ce moment, donc, qu'il a pris le chemin du retour avec sa femme. Ils ont pris le chemin du retour. La nuit les a surpris quelque part dans une vallée. Ce n'était pas seulement la nuit, mais une nuit accompagnée d'une tornade, d'une pluie très forte qui les a bien frappés, lui, sa femme et son enfant, son nouveau-né. Après la pluie, ils avaient donc naturellement froid, ils étaient également très fatigués, donc ils cherchaient un endroit, un village ou une ville ou un campement où ils pouvaient retrouver le repos. Voilà que dans cette plaine-là, ils avaient observé une lumière. Alors, quand ils ont vu la lumière, pour eux c'était le salut. Le prophète Moussa a dit, il n'était pas encore prophète, a dit à sa femme, bon, tu m'attends ici, je vais aller chez les propriétaires de ce feu que je vois là-bas pour demander, ou bien demander, n'est-ce pas, un tison de feu pour venir donc nous réchauffer, ou bien en tout cas trouver une information, ou même trouver à manger ou à boire. Il s'est dirigé donc au feu. Plus il s'approche du feu, plus il voit que ce n'est pas un feu ordinaire. Quand il s'était approché, il a trouvé que ce feu brûlait dans un arbre qui était vert. Ce n'était pas un arbre desséché, mais un arbre vert qui était encore vivant, qui était encore frais. Ça, c'est la première remarque, la première observation. Deuxième observation, il avait trouvé que ce feu-là n'avait pas la couleur rouge des feux ordinaires, mais c'était un feu de couleur blanche, comme une ampoule fluorescente, comme une lumière du jour. Alors, quand il a vu ce feu brûler dans un combustible qui n'était pas ordinaire, alors il a été vraiment très surpris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il voit que ce n'est pas un feu. Au moment où il voulait se retourner, il y a une voix qui l'appelle du feu. Et la voix commence à lui parler. Ya Moussa, inni ana Allahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Li tujza kullu nafsin bima kasabat, etc. Cette voix lui parlait en lui disant, je suis Dieu. Donc il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Sache que il y aura la résurrection, sache d'abord qu'il y aura l'apocalypse, le monde d'ici-bas finira, cessera d'exister, ensuite les gens seront ressuscités des morts, etc., etc. Donc c'était Dieu qui lui faisait une révélation, qui lui donnait des informations. Ensuite, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est un berger, Moussa était un berger, pendant 10 ans il a fait le berger, il avait un bâton. La voix lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, c'est mon bâton. Qu'est-ce que tu fais avec? Je l'utilise pour conduire mon troupeau et, n'est-ce pas, pour me reposer là-dessus. Alors, Dieu lui a dit, lance le bâton. Il a lancé le bâton. Voilà que le bâton se transforme en un très gros serpent qui se dirige vers lui. Il a commencé donc, il s'est retourné, il voulait prendre la fuite. Dieu lui dit, non, arrête-toi, n'aie pas peur, car un prophète n'a pas peur à côté de moi. Reprends le bâton, reprends le serpent. Il est venu, il a touché le serpent, c'est redevenu le bâton. Dieu lui dit, voilà, un premier signe que je te donne. Deuxième signe, Dieu lui dit de mettre la main sous son aisselle. Il plonge la main sous son aisselle, il refait sortir la main, ça devient une ampoule qui brillait. Il lui dit, ça c'est un deuxième signe. Et Dieu lui dit, je te désigne comme prophète. Et je t'envoie chez Pharaon. Ce même Pharaon qui cherche à te tuer, va chez lui. Je t'envoie chez lui pour...